Bonjour à toutes et tous, Arlette Farah
et Fulgence Blair.
Vous écoutez Regards Croisés. Alors aujourd'hui, Fulgence, on se prépare une belle émission.
Oui,
avec deux beaux invités,
deux
si l'on peut dire.
Deux sujets complètement deux différents, sujets. L'opposé de l'antipode.
Oui, mais très intéressant aussi. Donc, en première demi-heure, on va voir James Heinemann pour parler de qui est porte-parole pour les impatients. Et les impatients, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un organisme qui vient en aide aux personnes qui ont des problèmes de santé mentale par le biais de l'expression artistique, telles que offrir des ateliers de création qui sont axés sur le dessin, la peinture, la musique, et qui sont offerts dans 11 villes du Québec. Donc, on en parle tout à l'heure avec James. Et toi ?
Et moi, je vais recevoir Mehdi Benboubaker, qui est le directeur de l'organisme Printemps Numérique, et qui va nous parler de la semaine numérique qui a débuté depuis hier.
Ah oui, c'est tout récent.
C'est costaud, hein. 6 jours de numérique à travers le monde, 600 conférenciers dans 50 pays.
On va en parler, on va en parler. Pour l'instant, on part en musique avec Guillaume Grand.
Je crois que je me suis trompé. En fait, j'aime trop les gens, même s'ils me fatiguent de temps en temps. T'enlèveras pas le diable dedans. Toujours le pire de mes enfants. On fait pas la même vie, on fait pas la même fête. T'as pas les pieds sur la même terre. Je vole tes défauts, j'adore tes gestes. T'as peur de moi, et moi je me déteste. Et même si j'ai la haine, je voudrais vous embrasser. C'est l'effort, vous faire rêver. Pour tous les autres, qui ne sont pas nés. Nous on est là, autant s'aimer. Je laisse compter les jours qui nous restent sur la terre. Mais t'attends tranquillement de redevenir poussière. Pourtant je suis le pire, j'arrête pas de tout gâcher. De la plus douce parole jusqu'au baiser volé. Je trouve pas les bons mots. Je vis pas ce que je rêve, non plus j'en sais rien. Combien de temps je vais rester si le monde est perdu? Mais c'est bien, on est deux, alors je pars avec lui. Et même si j'ai la haine, je voudrais vous embrasser. Vous serrer fort, vous faire rêver. Tous les autres qui ne sont pas nés, nous on est là, autant s'aimer. Si je te préfère à toi, si je voulais toutes tes potes, si je te faisais un gamin, ou si on en faisait trois autres. Si là-haut il y a du monde, si ma mère elle est folle, si les larmes des enfants coulent dans la même rivière, si les vents ont choisi. Si les vents ont choisi de souffler dans ce sens, peut-être qu'il faut se taire, se dire qu'on a de la chance de respirer encore. De respirer encore, le peu d'air qui nous reste. C'est la vie qui veut ça, c'est la vie qui nous blesse. On oublie la tendresse, on oublie la tendresse. Et même si j'ai la haine, je voudrais vous embrasser. Vous serrer fort, vous faire rêver. Pour tous les autres qui ne sont pas nés, nous on est là, autant s'aimer. Et même si j'ai la haine, je voudrais vous embrasser, vous serrer fort, vous faire rêver. Pour tous les autres qui ne sont pas nés, nous on est là, autant s'aimer.
Alors c'était Guillaume Grand, j'aime trop les gens. Ben, ça tombe bien, James Heinemann, bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Bien, merci, et vous?
Ça bonjour, va bien, merci.
Bonjour, James.
On vient là pour parler de l'exposition en camp annuelle Parle-moi d'amour, parce qu'elle était initialement prévue dans un moment où elle n'a pas pu se passer. Ce qui a été prévu en mars dernier.
Oui, oui, au début du confinement. Donc, évidemment, ça... Ah oui, ça a été la croix et la bannière, un long processus pour les impatients, pour beaucoup d'organismes comme ça, de savoir comment ils... Parce qu'évidemment, les impatients qui s'occupent des gens qui souffrent de problèmes de santé mentale et qui leur offrent des ateliers d'art-thérapie, on parle de 850 personnes par semaine dans 17 points à travers le Québec. Le besoin est énorme. Ces gens-là trouvent là un lieu d'expression pour sortir de l'isolement, pour trouver une communauté, pour se relier au monde, à nous en général. Alors quand tout ça s'arrête pour tous ces gens-là, c'est assez catastrophique, parce que c'est un repère très important dans leur vie. Alors ça a été toute une job là au cours des derniers mois pour les impatients, pour l'organisme, de garder contact avec chacun d'entre eux chaque semaine.
Et puis surtout que ça leur fait du bien, parce que dans leur avancée, on peut dire, ça leur fait du bien de participer à tout ça, pour la musique, la peinture, il y a des progrès qui sont vus, qui ont été vraiment visibles.
Ah ben oui, ça a été étudié, ça a été analysé, recensé, les bienfaits sont mesurables, en autant qu'on puisse mesurer le mieux-être d'un être humain, mais oui, ça a un impact qui est clair et net. Les impatients eux-mêmes le disent à quel point c'est devenu une maison pour eux, un endroit où se retrouver, où exister, parce que quand ils sont là, on leur parle jamais de problèmes de santé mentale. C'est pas ça leur carte d'identité quand ils débarquent les ateliers. C'est des êtres humains à qui on propose de toutes sortes de moyens, la bande dessinée, la peinture, l'écriture, la musique, la vidéo. Il y a des artistes renommés qui viennent ponctuellement donner des ateliers pour les initier à des méthodes, la sérigraphie, etc. Donc, c'est un lieu de travail. C'est un lieu de création. Donc, ils sont là en tant que travailleurs, créateurs qui sont engagés dans un processus, mais aussi dans la création d'œuvres aux côtés de leurs collègues, avec des gens qui les appuient à travers tout ça. C'est devenu un lieu qui a fait ses preuves et qui est absolument essentiel pour beaucoup, beaucoup de gens. Donc il faut que ça dure. Ils ont bien fait ça aux impatients, parce que, comme je vous disais, ils ont gardé le contact, ils ont permis aux impatients, de même à distance, de continuer à être créatifs en leur proposant des jeux, des trousses. Maintenant, les impatients ont repris avec les ateliers ont réouvert avec évidemment les consignes sanitaires qui s'imposent, puis tout ça. Alors ils sont sortis de l'isolement, de la distance, avec les ateliers fermés, mais les levées de fonds comme Parle-moi d'amour, où sont absolument critiques pour ces organismes-là. Il n'y a pas d'autre mot. C'est à partir de ça qu'ils peuvent perdurer, continuer à offrir des ateliers, ouvrir éventuellement de nouveaux lieux. Alors, c'est plus compliqué, là. Mais oui, il y a un encan. Là, je parle parce que je sais que mon temps est limité.
Mais non, on a deux fois 8 minutes pour parler. Non, on a 2 fois 8 minutes. On a du temps.
On a du temps.
Alors, avant qu'on en parle de l'encan, James, moi, j'ai une question. Je voudrais savoir quel est votre plus beau souvenir avec les impatients, parce que ça fait un moment que vous les connaissez, que vous participez. Là, c'est que vous êtes porte-parole. Enfin, la porte-parole pour le Parle-moi d'amour, c'était... ça fait 2 ans que vous faites l'exposition, quand vous l'avez fait l'année dernière?
Non, ça fait peut-être 7 ans maintenant. 7 ans. Porte-parole.
Oui porte-parole, mais... avec eux. Et l'exposition en camp, c'est, vous l'avez déjà fait aussi l'année dernière?
Ben, c'est-à-dire que c'est ça mon rôle, en fait. C'est ça? Mon rôle comme porte-parole, c'est comme porte-parole de Parle-moi d'amour, c'est de faire le relais entre l'exposition en camp, qui permet de ramasser des fonds, et le grand public, les médias, etc., comme je le fais avec vous. Donc oui, je suis associé aux encans, si vous voulez, parce que les encans, c'est l'exposition.
Ça en fait partie.
Parce que en fait, chaque année, ça se passe dans des lieux qui sont assez beaux, assez invitants, avec cette pléthore d'œuvres hallucinante, 300-350 œuvres et des impatients et d'artistes professionnels.
James, il est tellement parti dans son élan de le faire qu'il veut même pas me dire quel est son plus beau souvenir avec les impatients.
Oui, on y revient. Allons-y. Écoutez, j'ai pas, ben là, comme ça, à brûle pour point, j'ai pas un souvenir précis. Je peux vous dire, puis bon, ça a l'air cucu, mais ça l'est pas du tout. Je peux vous dire que ce qui me vient à l'esprit quand vous me posez la question, c'est la fierté des impatients. À chaque année, au vernissage, il y a toujours un groupe d'impatients qui sont là. Il y en a qui ont pas envie d'être là, il y en a qui peuvent pas être là, mais il y en a qui ont envie d'être là et qui peuvent venir et qui sont là parce que c'est un moment important pour eux de se révéler comme ça au public. C'est leur exposition, c'est leur œuvre. Ils sont en compagnie d'artistes confirmés. C'est un moment important à chaque année et de les voir là. L'année passée, je les ai invités sur l'estrade. Je devais prononcer comme quelques personnes, là, quelques mots devant le public rassemblé. Puis je les avais invités à venir avec moi parce que je voulais qu'ils soient là, puis qu'ils soient vus, puis qu'ils puissent. Et puis je me disais, est-ce qu'ils vont venir? Est-ce qu'ils vont être trop gênés? Mais il y en a une ribambelle qui sont venus comme ça sur la scène. Et de voir les sourires rayonnants, la fierté, cette façon de sentir tout à coup que c'est plus juste dans le secret.
Oui, c'est ça.
Des ateliers que ça se passe, mais que tout à coup, c'est...
Tout le monde le voit.
Ouais, oui, et puis que tout le monde est assez émerveillé chaque année par ce travail, de voir les gens qui se penchent, qui s'arrêtent sur leur œuvre, qui la commentent. C'est vraiment un beau moment. C'est assez émouvant, merci.
C'est une expo qui va présenter plus de 330 œuvres, donc on va en reparler tout de suite après ça, mais on va d'abord faire une petite pause musicale et puis après vous aurez encore plein de temps pour en parler.
Oui, et puis après moi aussi je vous laisserai parler.
Mais non, j'aime ça vous écouter. D'ailleurs, ceci dit, après, quand vous aurez fini de parler des impatients, arrivera le jour où je vais vous recevoir pour votre livre, on en avait déjà parlé ensemble.
Ouais.
Mais pour l'instant, on part en musique et puis on revient tout de suite après. À tout de suite.
Sur l'envers de l'enveloppe est inscrit, tout en bas écrit en tout petit,
majuscule loyale et discrète.
J'ai fait une drôle de tête, un drôle de soupir. La retournant de l'autre côté, un nouveau message à décrypter.
Mets-lui des ailes, c'est une déesse.
À cet instant fébrile, j'ai ouvert, et c'est là que j'ai découvert. Est-ce l'être infini qui me l'écrit? La lettre infinie que je relis.
L'être infini, infini.
Infiniment, mais pour la vie. Que je suis
l'être infini. L'être infini, infini.
C'est bien parce que ta bouche a une fausse note que c'est la perfection divine.
L'être infini, infini.
Pourquoi dans l'or c'est toujours quand ça frotte, quand ça trébuche que l'on s'incline.
L'être infini, infini.
Voilà soudain à quoi j'ai pensé devant cette lettre immaculée. Est-ce l'être infini qui me l'écrit? La lettre infinie que je relis.
L'être infini, infini.
Infiniment et pour la vie. Oh, l'être infini que je suis. Avec au beau milieu un simple M, une simple lettre, celle de l'amour avec des ailes. Sans un mot, tout est dit, infiniment et pour la vie.
Je relis
l'être infini.
James, parlons de cette exposition qui se passe où et quand. Allô?
Belle, hein, parce que... Oui, allô, vous m'entendez?
Oui, oui. J'étais... D'un coup, j'avais un blanc, j'ai dit, ah ben non, il ne nous a pas déjà quittés quand même.
Non, non, j'avais de la vie. Non. Mais non, elle est virtuelle, c'est ça le truc,
oui.
C'est ça le hic cette année. C'est pour ça que c'est important d'en parler, parce que c'est pas évident. Mais demain, les gens, à partir de demain, jusqu'au 29 octobre, peuvent aller sur le site impatient@pluriel.ca et ils vont trouver la page Parle-moi d'amour. Et ils vont trouver là le catalogue des 330 et quelques œuvres qui est très, très bien fait. Qui est d'abord un truc merveilleux juste à regarder. Ensuite, ils vont trouver aussi la possibilité de miser sur des œuvres. Hein. Ça commence traditionnellement, ça commence à $50. Je ne sais pas si ça a été changé cette année à cause du contexte. Et puis, en plus, s'ils veulent, ils peuvent réserver des places pour aller voir les œuvres. Il y en a une partie, le tiers, à peu près, qui est exposée sur les murs des Impatients, dans le coin de la chapelle historique du Bon Pasteur, sur Sherbrooke, pour réserver des places, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de monde à la fois dans l'exposition. Donc, c'est possible de voir, c'est possible de miser, mais c'est possible de regarder toutes les œuvres qui sont disponibles, et le travail pour rendre ça disponible comme ça sur Internet est évidemment toujours colossal. Donc, en fait, c'est une exposition vraiment qui est virtuelle cette année. Le désavantage, évidemment, c'est que c'est pas une grande salle où les gens entrent et sortent pendant 2 semaines. L'avantage, c'est que maintenant, tout le monde, partout à travers la province, peut avoir accès à cette exposition, peut miser, peut se procurer une œuvre des Impatients ou d'un artiste confirmé. Donc, ça... C'est devenu beaucoup plus accessible, mais évidemment, on aurait préféré que ce soit en salle et que les Impatients eux-mêmes puissent être là.
Oui.
Mais c'est pas possible pour l'instant. Donc, c'est virtuel, impatient@pluriel.ca.
On fait avec. Parce que j'ai vu aussi une vidéo de vous disant aux personnes qui nous écoutent, même si vous pensez ne peut-être pas avoir les moyens d'acheter une œuvre, allez voir quand même l'exposition. Allez-y, ouais. On ne sait jamais. Et puis, de toute façon, si ça commence à $50 jusqu'à plus, on peut trouver son bonheur aussi.
Oui, parce que c'est... Je dis toujours ça, puis parce que je suis sincère. Je pense que c'est vrai. Même les gens qui n'achètent pas, chaque année, je leur dis, allez voir des œuvres. Allez-y en famille avec des enfants,
oui.
Parce que c'est une exposition aussi à une réalité humaine à laquelle on veut que nos enfants deviennent sensibles en grandissant.
Oh, oui.
Aussi parce que c'est un festival de couleurs, de thèmes qui, à certains égards, nous rappellent l'enfance, mais qui est vraiment pétant de vie. Et c'est le genre de choses qu'on ne trouve pas ailleurs, qu'on ne trouve pas dans les musées traditionnels. C'est une expérience qui est quand même assez unique.
Et puis, il y a des fois, au milieu des œuvres, il est peut-être difficile de dire qui impatient, qui artiste.
Je
veux dire.
C'est pas toujours évident de les départager, puis c'est ça un peu le but de l'affaire aussi. S'amuser à essayer de deviner sans pouvoir y arriver la plupart du temps.
Alors, tout ça, c'est pour ramasser donc de l'argent qui va permettre aux impatients de continuer à offrir gratuitement et dans 17 lieux au Québec des ateliers de création. Comme vous le disiez tout à l'heure, à plus de 850 personnes ayant des problèmes de santé mentale.
Pas toujours les mêmes. Hein. C'est 850 par semaine. Il y en a qui sont là pendant 2 mois, il y en a qui sont là pendant 1 an, il y en a qui suivent un atelier, d'autres 2 ateliers, il y a un certain roulement. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de Québécois et Québécoises qui participent à un moment ou un autre, d'une façon, à un degré ou un autre, aux ateliers à travers la province. C'est vraiment quelque chose de très important qui est aussi fait... En collaboration, les Impatients travaillent en étroite collaboration avec des équipes aussi médicales qui sont sur cette question-là, des psychiatres, etc. C'est pas non plus un mouvement, les Impatients, qui est en dehors de toute la recherche, de tout ce qu'on sait sur la santé mentale. Mais quand les gens y entrent, les Impatients, comme on les appelle, ça n'est plus le sujet. Ça, c'est du ressort de l'administration des Impatients pour encadrer leur travail, pour le faire avancer. Avec tous les art-thérapeutes extraordinaires qui travaillent chez eux, mais c'est important d'un point de vue social.
Ah mais tout à fait, puis il faut voir aussi que j'ai eu la chance de voir des tableaux, de voir déjà des expos, et surtout aussi de les entendre en musique. Et ça a été un moment assez extraordinaire.
Oui. Ah oui, c'est quelque chose. C'est quelque chose d'aller voir.
Leur bonheur, leur joie qui éclatait, ils étaient quasi plus heureux que nous encore ou tout le temps.
C'était... On sent que ça leur fait du bien. Puis, puis ils donnent des concerts, ils donnent des shows, puis c'est quelque chose.
Oui, je les ai vus en show. Alors là, Fulgence a une question pour vous. Alors,
James?
Oui.
Alors oui, rebonjour d'abord. Et puis, j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que vous les appelez les impatients. Et puis, est-ce que le nombre d'impatients a augmenté depuis le début de la pandémie? Et quelles sont les couches de la société qui sont touchées au fait?
Alors ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment toutes les couches qui sont touchées. Hein. Mmh. J'ai rencontré des impatients l'année dernière. J'avais une impatiente assez plate. J'ai des trous maintenant avec les noms des gens. J'oublie son nom, c'est dommage. Mais elle était étudiante à l'Université de Montréal. Elle faisait son bac. Elle dessinait aussi pour elle-même, mais elle fréquentait aussi les impatients. J'ai eu une co aussi, porte-parole, une année, qui était mère de famille, qui était... aujourd'hui séparée de ses enfants, mais qui avait des études universitaires aussi, qui avait des diplômes. Il y a de tout chez les impatients. Il y a des gens qui sont plus gravement atteints, il y a des gens qui sont schizophrènes, il y en a qui sont plus dans un burn-out. Le spectre des problèmes de la santé mentale est très large. Alors c'est vraiment une espèce de microcosme assez représentatif de la société. C'est pas une couche plus qu'une autre qui est frappée par évidemment les problèmes de santé mentale. Est-ce qu'il y en a plus depuis le début de la pandémie? Je peux pas vous répondre. J'ai pas les chiffres. Je sais pas. Je soupçonne que non, étant donné que ça a été fermé pendant des mois.
Oui.
Donc là, ils ont rouvert et en plus ils rouvrent, mais ils peuvent peut-être pas en recevoir autant qu'ils le voudraient à cause des mesures sanitaires. Donc c'est pas le meilleur moment pour. Par contre, au fil des ans, le nombre a augmenté de façon très, très, très significative. Quand j'ai commencé, on était très, très loin du 800 et quelques par semaine qui fréquentaient les ateliers. Il n'y avait pas 17 centres des impatients à travers la province. Il y en avait moins de 10. Donc, l'expansion, elle est continue parce que le besoin est beaucoup plus grand que ce que les impatients peuvent offrir. Donc, il y a encore une grande, grande marge de manœuvre.
Un grand travail à faire.
Ah oui, pour vraiment rejoindre le plus de gens possible aussi en dehors des centres urbains.
Merci James.
Alors, dans les deux dernières minutes qui restent, simplement annoncer aussi que les impatients ont reçu ou reçoivent le prix Ella Amir pour l'innovation en santé mentale 2020 décerné par Ami Québec. Fallait aussi le signaler.
Les impatients, ça vient du nom d'une fleur qui est extrêmement résiliente. Donc, d'où le nom des impatients. Mais aussi, les impatients, c'est aussi parce qu'ils sont très impatients de vivre.
Et de sortir de leur maladie.
Oui, donc c'est un nom qui est plein de sens.
J'ai ma réponse. Merci, James.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Arlette, je sais que vous parlez régulièrement des impatients, que ça tient à cœur, puis que c'est pas la première fois qu'on se parle.
Et puis,
tellement important. Et puis, je sais que tout le monde aux impatients l'apprécie. Alain Labonté, l'attaché de presse, l'apprécie. Et moi-même, je pense que c'est la 3e ou 4e entrevue qu'on fait au fil des ans.
C'est vrai.
Je vous remercie aussi pour le soutien que vous offrez à leur travail.
Mais j'ai beaucoup aimé. Ça a été mon gros coup de cœur quand Alain me les a présentés, puisque c'est grâce à lui que je les connais. Voilà. Donc, il faut le dire. On se reverra une fois prochaine pour une vie d'adulte?
Ah, quand vous voulez. Vous m'appelez, je serai là.
J'ai pas oublié, James. Alors, merci Arlette. Pour tout. Au revoir
merci.
Et à bientôt.
Merci, James.
Bye.
À bientôt. Au revoir, Fulgence. Au revoir.
Au revoir.
Ne soyons pas ridicules. Voyons-nous encore demain. Une vie, on n'en a qu'une. Toi et moi, prenons-en soin. Ne soyons pas ordinaires. Droit debout face au destin. Une vie, on n'en a qu'une. Des chagrins, on en a plein. aucune amertume. Le temps passe comme un train. Une vie, on n'en a qu'une. De rocher ou de satin. Ne soyons pas vulnérables. Si le temps est incertain. Une vie, on n'en a qu'une. Des soucis, on en a plein. Tous les deux de rester loin. Une vie, on n'en a qu'une. Nous ne sommes que deux humains. Nous marchons droit sur la ligne. À la croisée des chemins. Une vie, on n'en a qu'une. De l'amour, on en a plein. De moi.
Alors, c'était la grande Sophie qui nous chantait « Une vie ». Voilà, donc dans la prochaine demi-heure...
On va parler de numérique.
On parle du numérique.
La semaine numérique. 6 jours de numérique. Waouh.
Alors, restez avec nous.
Vous allez entendre des choses. Hein. J'ai
à
failli
tout
dire
de
des
suite.
Trucs. Ouais.
Vous écoutez Regards croisés avec Arlette Farah et Fulgence Blas.
Avant, oui, on a la deuxième partie de l'émission, bien sûr. Avant de laisser Monsieur Mehdi Ben Boubaker, directeur du Printemps Numérique, nous parler de la semaine numérique, on va aller tout de suite en musique avec Jackie King, Chérie Coco.
Mama Bota, toujours au service de l'humanité. Je suis Jackie King at The Voice. 2020, c'est maintenant.
Lambeto inawa osenge na dele owaye. Lambeto inawa osenge na ne owaye. Lutu nyemba mule mama miwande wa bole moye. E bangwa ndolomba na kedi no wando bendi wangaye. Si jamais tu m'écoutes, ne sois pas indifférente, Coco.
visionnaire. Oh, abonde, we mouma, ye mouma, pa ni selo. Wando wa bole moi toye bang bando lombana kadi no wando dani bangaye yeso tena we singa bola nana sontane yeso tena we singa oya na bebele libamie si jamais tu m'entends fais en sorte que je le sache si jamais tu m'écoutes ne sois pas indifférente coco à coco chérie coco. Chérie Coco, entends-tu comment je t'appelle? La douleur de l'amour fait tituber mon cœur. Dans ce pourrait le calmer, c'est toi qui as le médicament. Chérie Coco, souhaite-la, souhaite-la. Tremblement de terre, Patrick Lengue à Douala, Patrice Kadji, l'étoile montante. À Coco,
à Coco,
chérie Coco,
et chérie Coco,
Robertine Bikula. Lambeto yina wa o singe na bele o wae. Lambeto yina wa o singe na ne ya o wae. E bango yemba o mule mo amene mo. Mama o loco de nyambo tu alaye. Soube a coco,
a coco,
seri coco,
chéri coco.
Madame Moubissi, la gabonaise, dame de cœur. Le maillot jaune, président en mot, danse avec Jaguar. Claude Eric, le cœur, Masso, l'avenir du Cameroun. Emile Dou, Lombon, Dominique Dior à Paris. Olivier Chimanga, fait danser l'Afrique. Garde Chimanga.
Ah oui, c'était Jackie King, chérie Coco, ça fait bouger ça. Maintenant, on va parler de numérique. On a déjà au bout du fil Mehdi Ben Boubaker, qui est le directeur du Printemps numérique, qui va nous parler de la semaine numérique qui a débarré depuis hier. Hier, c'était le 13, c'est jusqu'au 18 octobre.
Bonjour.
Six jours de numérique. Bonjour Mehdi Ben Boubaker.
Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, ça va très bien. Quelques nuits de sommeil qui manquent, mais sinon tout va bien.
Ça ne me surprend pas. Ça a commencé depuis hier, même avant que ça ne commence, vous étiez déjà dans le feu, on peut le dire.
Oui, ça fait un an, au fait, qu'on est là-dessus.
Il faut le préparer avec ces milliers de, je dis pas des milliers, mais plus de 600 conférenciers de 50 pays présentés. Mais c'est quoi la semaine numérique? D'abord, parlez-nous d'abord du printemps numérique dont vous êtes la tête, bien sûr, l'organisme.
D'accord.
Qui organise cette année, c'est au Canada, à Montréal, que ça se passe. Mais numériquement parlant, je passe sur le web, il n'y a personne dans une salle là où on va les rencontrer.
Ben, nous, on est dans plusieurs salles pour s'assurer de la distanciation nécessaire dans ces temps particulier.
Oui.
Oui, c'est complètement numérique, à part un volet d'un des pavillons. Je vous en parlerai là, le ISEA, donc qui est notre pavillon créativité.
Oui.
Il y a quelques activités, quelques pièces d'art numérique qui se déplacent dans l'espace public. Mais bon, pour revenir au printemps numérique, donc c'est un organisme à but non lucratif dont la mission première est de démocratiser les enjeux liés à la transformation numérique. Vous savez, il y a une révolution numérique qui est en cours depuis déjà quelques temps, et la mission de l'organisation, c'est vraiment de s'assurer que les bons maillages se font aux différents niveaux de la société. Donc on a un volet jeunesse où on agit un peu partout au Québec en collaboration avec le secrétariat de la jeunesse. Donc on travaille sur un axe particulier qui est ce qu'on appelle la fracture numérique. Donc s'assurer que nos jeunes ont tous les outils nécessaires pour évoluer dans un monde en constant changement.
Oui.
Et on a aussi dans le volet professionnel, là on travaille plus avec des entreprises, des organisations, des villes pour amener cette transformation-là, puis s'assurer de faire les bons liens entre les bons acteurs. Une des missions premières aussi du Printemps numérique, c'est de positionner Montréal comme capitale mondiale d'intelligence numérique, appelons-le comme ça.
Ah, c'est bien.
Voilà. Donc, comme vous savez probablement, donc on excelle à Montréal dans plusieurs aspects du numérique. Donc, on est, c'est dépendamment comment on peut lire les chiffres, la troisième ou la cinquième ville au monde en matière de jeux vidéo, développement de jeux vidéo. Mais assurément, nous sommes la première ville au monde en concentration par capita de développeurs. Donc on a la plus grande concentration de développeurs de jeux vidéo au monde à Montréal.
Oh.
On est la quatrième ville au monde quand on parle d'effets visuels. Vous savez, des blockbusters comme No Man's Sky, par exemple des Avengers, des séries comme Game of Thrones. Il y a Montréal dans toutes ces grands films là ou ces grandes séries là. En matière d'effets visuels.
On doit être fier de notre métropole. Hein.
Je ne savais pas. Tu vois, je l'apprends là.
Assurément. Mais beaucoup de films en fait que vous voyez, qu'on voit où il y a des effets visuels, il y a souvent une touche montréalaise là-dedans qui est donc la présente. On devient un pôle majeur en intelligence. En intelligence artificielle, en IA, surtout en matière de recherche. Nous sommes vraiment un pôle majeur là maintenant en matière de recherche en intelligence artificielle. Et puis il y a beaucoup d'acteurs mondiaux qui s'intéressent actuellement à Montréal. C'est d'où l'installation de Facebook, de Google, de Samsung. En tout cas, plusieurs grandes entreprises viennent s'installer ici pour se rapprocher de nos pôles de recherche en matière d'intelligence artificielle.
Mm-hmm.
Et puis j'en passe, mais en 4.0 aussi, on a de belles pépites aussi. Plusieurs secteurs qui sont technologiquement très avancés.
Oui.
Et c'est une particularité de Montréal par rapport à d'autres villes à travers le monde où souvent on a un aspect particulier. Cette ville-là, elle est plus portée sur telle ou telle. Mais l'avantage qu'on a à Montréal, c'est que on a plusieurs secteurs qui sont à la pointe. Et l'objectif donc premier de cette semaine numérique, pour revenir à MTL Connect, c'était de créer les maillages, donc ce qu'on appelle nous en jargon chinois, la pollinisation croisée. Donc la pollinisation croisée, c'est quoi ? C'est de faire en sorte que ceux qui ne se rencontrent pas dans la vraie vie se rencontrent. Parce que il y a des gens qui sont dans le milieu, par exemple, du jeu vidéo, de l'effet visuel, ou de l'intelligence artificielle, ou de la réalité virtuelle, ou du 4.0, et j'en passe, se connaissent entre eux. Bulle, ils se connaissent. Une grosse bulle, mais ils se connaissent. Par contre, ce qu'on essaye de faire, c'est de créer ces rencontres-là. C'est un peu une agence matrimoniale pour ces secteurs de technologie. Pourquoi ? Parce que le code a cette particularité-là qu'il traverse les frontières.
Oui.
On peut pas pour comprendre la révolution qui est en cours, on peut pas y aller par silo. Il faut absolument qu'on ouvre nos esprits parce que c'est en train de changer énormément de choses dans notre vie. Vous savez, quand on a eu par exemple la révolution industrielle, on avait le temps de voir les choses venir. Donc, je prends l'exemple d'un forgeron. Il avait le temps de regarder cette machine à vapeur qui s'en vient, puis de dire ah, mais peut-être que c'est pas le bon métier à donner à mon fils, je vais pas peut-être pas l'encourager, mais je vais regarder. Mais ça va se passer sur des dizaines d'années. Donc vraiment, tu sais, on avait le temps en tant que communauté de voir les changements puis de s'adapter à ces changements-là. C'est pas vrai avec le numérique.
Oui.
On n'a pas le temps.
On n'a pas le temps. On n'a pas le temps.
Ça va trop vite. Ça va plus vite que.
Mehdi.
Oui.
Oui, mais ça va très vite. On va parler un peu des différents pavillons durant cette semaine numérique. Mm-hmm. Il y a la cybersécurité, il y a l'éducation, il y a la fintech, il y a l'intelligence artificielle. Oui. Et puis, il y a quelque chose dont les gens ne savent pas. Bon, l'IoT, c'est-à-dire l'Internet.
L'IoT.
Ouais. Bon, en anglais, IoT en français. L'Internet pour les objets. Expliquez un peu à nos auditeurs ce que c'est.
Et à moi aussi, parce que je suis complètement... je vois pas ce que c'est.
L'Internet des objets, ça va... Ben, c'est déjà, ça a révolutionné beaucoup donc ce qu'on appelle le 4.0, donc les industries.
Oui.
Mais ça va révolutionner encore plus grandement nos vies en tant que telles. C'est des objets de la vie de tous les jours. Donc quand on parle des particuliers ou les objets qui sont dans nos manufactures, dans nos entreprises, vont se parler entre elles. En fait, l'idée c'est d'avoir un réseau global qui fait en sorte que, par exemple, quand on le voyait avant dans les films, là c'était de la science-fiction, mais c'est plus vrai.
C'est devenu réalité maintenant.
C'est devenu réalité, puis ça devient de plus en plus accessible aussi point de vue financier. Donc quand on rentre, il y a des systèmes maintenant pour allumer les lumières, faire les stores, allumer la télé,
demander à mon frigo de s'ouvrir.
On fait... après tout arrive.
Ou bien tout simplement quand on est dans une voiture, si la voiture est équipée de ce système, si de la nouvelle voiture, si les pneus, il y a pas assez d'air dans les pneus, ça vous signale que les pneus sont un peu dégonflés.
Exactement.
Voilà, il faut s'arrêter la prochaine station d'essence pour aller gonfler un peu les pneus, tout ça, voilà.
Puis il y a des applications qui sont très chouettes, par exemple le parking, par exemple, c'est à la place de tourner en rang comme en ville pour aller chercher une place avec l'IoT qui sont placés dans les bons endroits, ben on peut savoir OK, il y a une place dans deux rues à droite, je suis pas obligé de faire 50 fois le tour du bloc pour
s'énerver surtout.
Exact. Donc ça c'est quelques applications, mais dans l'industrie aussi il y a énormément d'applications qui permettent. Je vous donne un exemple, mais qui est un peu mixte là, c'est de l'IoT plus autre chose. Dans une mine par exemple, prenons nos mines d'or en Abitibi, à un moment donné on a arrêté l'exploitation de certaines mines parce que ça coûtait trop cher, tu sais, ça coûtait on était rendu trop profond dans
le sous-sol.
Pour envoyer par exemple un mineur 4 heures ou 5 heures pour qu'il descende, combien de temps il va travailler puis pour remonter, c'était plus soutenable l'exploitation de certaines mines. Mais là maintenant avec la révolution justement avec la technologie, ben on peut envoyer c'est des robots qui font la job. Et donc tout est piloté de la surface. C'est un genre de drone, mais avec plein d'éléments connectés aussi, d'objets connectés qui sont autour, qui garantissent la sécurité ou qui garantissent le bon déroulement des opérations. On peut le voir par exemple dans des champs de blé pour l'arrosage. Il y a une multitude d'applications
qui permet
ça.
Voilà.
Souvent, quand on parle de ça, on s'énerve pour le travail en général. Et puis c'est pour ça que on a un pavillon qui est sur le travail de demain.
Oui, pour la reconversion des employés, des travailleurs.
Quelque part. Souvent, c'est une transformation.
Transformation, oui. Est-ce qu'on peut nous parler un peu de la ville du futur? Comment ça se passe? La ville du futur qui est à nos portes, on dit, il y a 2 personnes sur 3 qui habiteront probablement dans des villes ou d'autres centres urbains d'ici 2050, selon des nouvelles données des Nations Unies. Donc cette tendance crée d'ailleurs de nouveaux défis auxquels les villes et leurs habitants seront confrontés. Impact environnemental, vieillissement de la population, mobilité, logement, nouvelles formes de gouvernance. Mais comment la technologie peut-elle contribuer à relever ces défis?
Je pense que c'est un des éléments clés pour pouvoir gérer ce genre d'ensemble. On le voit d'ailleurs avec des villes qui excellent, si on prend Singapour, ou certaines villes qui ont fait le pas il y a déjà quelques temps.
Oui.
Ça permet une meilleure gestion de tout le de tout ce qui est ville, du vivre ensemble en général. Donc les systèmes de transport, les systèmes d'éclairage, les systèmes pour la gestion des déchets, c'est d'avoir comme une connexion entre tous les systèmes. Ça permet aussi des économies d'échelle et ça permet une gestion vraiment pointue, précise des opérations.
Des opérations, oui.
Toutefois, moi, il y a un élément qu'on garde nous en tête beaucoup. La technologie, ce n'est pas une finalité. Numérique, ce n'est pas une finalité. C'est un outil.
C'est vrai.
Que tout ce qu'on fait, effectivement, tout ce qu'on fait, il faut qu'il soit tourné vers l'humain.
Vers l'humain, voilà.
Donc voilà. La ville du futur, c'est surtout une ville qui garde et qui sauvegarde une meilleure qualité de vie. Voilà.
On tend tout doucement vers la fin de l'entrevue, mais avant d'arriver à la fin complètement de l'entrevue, on va parler de quelques acteurs d'ici et d'ailleurs. Et puis surtout, il y a une personne qui a retenu mon attention. Il y a le ministre québécois chargé de qui fera partie des intervenants d'ailleurs, comment ça s'appelle, Éric Kerr,
oui,
le ministre québécois délégué à la transformation numérique, numérique gouvernementale. Et puis il y a une dame dont le nom, elle est hackeuse,
Audrey Tang? Ah non, Audrey, elle est ministre.
Elle est ministre. La hackeuse, son nom, je vais la trouver tout de suite, là. Et puis il y a la ministre du numérique de Taïwan, Audrey Tang.
Audrey Tang.
Qui est une transgenre d'ailleurs.
Qui c'est la première ministre transgenre.
Au monde.
Oui. Mais qui a une très très belle histoire, Audrey Tang. En fait, je ne sais pas si on doit le raconter parce que s'il y a des enfants autour, mais Audrey Tang a convaincu ses parents que l'école n'était pas faite pour elle à 11 ans. À 11 ans, elle a quitté l'école. Parce que le système d'éducation
ne lui correspondait pas.
Voilà. Et elle a pu convaincre ses parents de la chose. Elle a constitué ses premières entreprises à partir de là, des start-up. C'est un succès fulgurant. Là,
on lui dit bravo. Hein. Et puis Alissa, l'autre que j'ai cherché, c'était Alissa Knight.
Oui,
influenceuse en cybersécurité, hackeuse, auteur et partenaire de Night Inc. Comment vous avez mis la main sur elle?
Parce que là maintenant elle est du bon côté de la force.
Elle fait partie des good boys.
Maintenant c'est une white hat.
White hat.
Ouais.
Un chapeau blanc.
Elle s'intéresse beaucoup maintenant aux voitures autonomes. Donc, elle essaie de hacker les systèmes de voitures autonomes parce que ça va être un enjeu et c'est un enjeu énorme.
J'ai bien hâte de suivre sa conférence à elle. Mais merci beaucoup. On a presque fini. Quel est le lien que les gens peuvent avoir pour pouvoir. C'est montrealconnect.ca. C'est bien ça. MTL Connect en un seul mot.
Oui, intelconnect.ca.
Le connect avec TE.
Il y a des tarifs pour la billetterie?
On est de 0 $ à 149 $, quelque chose, plus les trucs. Mais il y a des passes à 0 $ qui sont pas chers, mais surtout qui donnent accès à du contenu. Donc ce qu'on appelle la passe découverte, c'est vraiment gratuit, là. Il y a aucun sou là-dessus. Ça donne accès au main stage, à des conférences inspirantes et de grandes conférences et des interactions. Mais ça donne accès aussi au e-salon de l'emploi. Donc, il y a un salon de l'emploi par rapport au métier donc, il y a des entreprises qui présentent des postes d'emploi dans la technologie. Ça donne accès aussi à la zone tech. En tout cas, ça donne accès à certains nombres de... sinon, il y a des passes thématiques. Donc, on peut choisir au pavillon.
Merci beaucoup, Mehdi Ben Boubaker. On va se brancher. Merci beaucoup. On va se croiser en ligne. Merci de votre temps. Et puis, bonne semaine numérique.
Bonne semaine.
Merci.
Merci à vous. Au revoir.
Bye-bye. Au revoir.
Dunya ye kamba
Merci aux artistes du Burkina Faso qui ont mis ensemble pour reprendre le One Love de Bob Marley. Burkina One Love.
Oui.
On dit beaucoup merci à Mehdi Ben Boubaker qui nous a parlé de la semaine numérique qui a commencé hier jusqu'au 18.
À James Saintman et des impatients qu'il ne faut pas oublier. Donc, à l'encan silencieux qui a lieu. Allez-y, puis allez voir toutes
merci
les tableaux.
Maurice.
Merci Maurice Bolduc, merci Fulgence.
Merci à toi Arlette et merci à nos auditeurs.
Et à demain.
À demain. Une autre émission. Prenez soin de vos minutes.